Donc l'objectif de cette session, c'est de présenter des outils, des dispositifs qui existent pour financer des projets en lien avec l'adaptation au changement climatique. Donc on va avoir quatre interventions différentes de quatre structures suivies de questions-réponses avec la salle où on pourra prendre voilà, vos questions ou vos remarques. Donc d'abord, M. Philippe Massé de l'ADEME, directeur Europe et International. Ensuite, nous aurons l'intervention de Mme Marie-Pierre Bourzaille, responsable de la division territoire et entreprise à l'Agence française de développement. Anne-Marie Reingold, chargée de mission à la délégation pour l'action extérieure des collectivités territoriales du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et enfin, M. Frédéric Vallier, secrétaire général de CCRE et animateur de Plateforma. Voilà, je vous propose, M. Massé, de commencer.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour m'avoir invité à cette table ronde sur les financements. Alors moi, j'appartiens à l'ADEME. L'ADEME, c'est une agence de mission nationale, hein, de mise en œuvre de politiques publiques sur la transition énergétique et écologique au niveau du territoire national. Et en ce sens, nous développons un certain nombre d'outils, de méthodos, de financements vers les collectivités territoriales françaises pour mettre en pratique dans leur propre territoire, en partenariat avec nous, un certain nombre de politiques publiques liées à l'efficacité énergétique, aux énergies renouvelables, au changement climatique, etc. etc. Nous avons dans ce cadre-là une activité européenne et internationale que nous développons en partenariat avec différents acteurs. Et l'un des acteurs primordiaux en France, c'est ma voisine, l'Agence française de développement, avec laquelle nous avons un contrat, un partenariat cadre de longue date et avec lesquels on met en place un certain nombre d'actions dans les différents pays qui nous concernent en termes de géographie internationale et notamment la Méditerranée et l'Afrique subsaharienne. Alors, en tant qu'agence de mission et agence d'expertise, on n'a pas de dispositif dédié à la coopération décentralisée. Par contre, nous pouvons apporter des financements sur des projets exemplaires dédiés à des projets de coopération décentralisée. Je pense notamment à des études spécifiques sur l'élaboration de plans climat territoriaux. Je pense également à des financements permettant le montage de formations ou de sensibilisation d'équipes locales dans les pays concernés, dans les collectivités concernées, pour monter en compétence des équipes qui permettront ensuite d'avoir un dialogue nord-sud ou sud-nord beaucoup plus riche en contenu. Parce que, comme ça a été dit en plénière, effectivement, on apprend l'un de l'autre. Hein, ce n'est pas uniquement dans un seul sens. Il y a le double sens à prendre en compte. Et nous pouvons financer ce type de projets exemplaires. Et puis, nous accompagnons un certain nombre d'outils existants. Et en termes d'outils, j'entends des réseaux, par exemple. Je pense à Climate Chance, que nous cofinançons. Je pense à des partenariats que nous avons noués avec le CGLU Afrique pour mettre en place des formations de formateurs dans le cadre de l'adaptation et de l'atténuation des territoires avec les gouvernements locaux africains pour que justement cette montée en compétences mutuelles puisse se faire. Je pense également à des opérations que nous montons en coopération avec l'Union européenne. L'un des orateurs étant du CCRE, c'est pertinemment que l'ADEME est intervenu dans le cadre d'un projet européen qui mettait en développement la Convention des maires en Afrique subsaharienne, dans lequel nous sommes intervenus pour justement apporter l'expertise, les méthodologies, les approches que nous développons au niveau franco-français. Et puis, dernier élément, et j'arrêterai là mon propos. Vous savez toutes et tous qu'il y a ces fameux 1%, 1% énergie, 1% eau, bientôt le 1% transport. On a agi pour ces 1%, je dirais, comme on agit pour le reste de nos activités en tant que facilitateur. Et on a essayé de voir dans quelle mesure, et on a financé cette opération-là, on est en cours de contractualisation d'ailleurs, pour essayer de voir comment harmoniser une approche cohérente de ces 3, 1%, bientôt 4, pour permettre d'avoir une conjonction horizontale d'intérêt entre les différentes dimensions déchets, eau, énergie et transport, au niveau des coopérations que ces 1% peuvent mettre en pratique au niveau des collectivités territoriales à l'international. L'idée derrière, c'est qu'on ne peut pas traiter l'aspect climat de manière en silo, mais en ayant une approche complètement horizontale des choses, une approche systémique. Et le fait de pouvoir travailler ensemble pour essayer de combiner ces différents modes de financement issus de ces 1% permettrait sans doute de favoriser cette transversalité. Voilà, j'en arrêterai là.
C'est à moi. Je passe le Covid aussi. Bonjour à tous. Merci Philippe de m'avoir passé le relais et effectivement de souligner l'excellent partenariat que l'Agence française de développement entretient avec l'ADEME, très opérationnel et depuis longtemps. Il me semble même me rappeler que c'est avec vous qu'on a travaillé notre méthodologie de bilan carbone au début des années 2010. Lorsque l'Agence française de développement a pris résolument un virage vers la lutte contre le changement climatique. Alors, l'Agence française de développement, c'est une vieille dame qui, cette année, fête ses 80 ans, je ne les fais pas, enfin, j'espère, oui, Anne-Marie, oui. qui aujourd'hui rassemble à la fois l'AFD, mais aussi sa filiale de financement du secteur privé Proparco, et très bientôt Expertise France, dont il y a un représentant dans la salle et qui pourra intervenir aussi à ma suite, qui est donc une banque bilatérale de développement, dont le volume d'activité l'année dernière avoisiné les 12 milliards d'euros dans plus de 80 pays dans le monde et sous la douce férule de nos deux ministères de tutelle que sont ma voisine de gauche, le ministère des Affaires étrangères et Bercy. L'AFD est la première banque bilatérale de développement avec un mandat explicite de mise en œuvre de l'accord de Paris. La totalité de nos financements actuels sont 100% accord de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on s'assure systématiquement de la cohérence de tous nos financements dans chaque pays avec un développement bas carbone et résilient au sens de l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'on ne financera pas un projet qui contribue à laisser le pays dans lequel on intervient sur une trajectoire captive de financement carboné. Ça ne veut pas forcément dire que tous nos projets ne répondent à des objectifs d'atténuation ou d'adaptation. Ça, c'est 50% du volume de nos financements qui ont un co-bénéfice climat. Mais ça veut dire qu'on cherchera systématiquement à accompagner une trajectoire de décarbonisation du développement de ces pays-là. On articule notre action en matière de lutte contre le changement climatique très classiquement autour de trois axes. L'atténuation, c'est-à-dire la limitation des émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation aux impacts de changement climatique. Et ça, c'est une activité qui monte en puissance. En 2019, c'était 2 milliards d'euros qui contribuent à l'adaptation des territoires face au changement climatique. Et puis, on a aussi une particularité qui est d'accompagner les États, les collectivités, les territoires dans la mise en place de stratégies de développement bas carbone avec des outils. Et effectivement, on a pu collaborer avec l'ADEME sur le financement et l'accompagnement de collectivités territoriales dans l'élaboration de plans climat énergie territoire au Minas Gerais, donc Brésil, il y a quelques années, en partenariat avec l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, maintenant Hauts-de-France. Donc on a des facilités, la facilité 2050 qui permet l'élaboration de stratégies de long terme, l'horizon 2050, pour avoir un développement bas carbone et résilient, ce qu'on finance dans plusieurs pays, comme par exemple le Costa Rica, où on va retrouver des coopérations décentralisées qui, en accompagnement de certaines approches de ce développement avec la région sud, PACA, va pouvoir s'associer à cette approche nationale. Ce tournant, il a été pris par l'AFD à la fin des années 2000. Entre 2007 et 2011, on a commencé à réfléchir à nos outils de bilan carbone, à adapter les approches sectorielles. C'est en 2012 que l'agence s'est engagée à consacrer minimum 50% de ses financements avec des co-bénéfices climat, avec une approche différenciée dans les géographies et bien sûr une exigence supplémentaire dans des pays émergents de type Chine, de type pays latino-américains, où cette exigence de lutte contre le changement climatique atteint 70% des volumes de nos financements. Donc on est véritablement très, très ambitieux. Depuis 2005, c'est 40 milliards d'euros de financement approuvés par l'AFD. Rien que pour l'année 2019, on est à 6,1 milliards, 5,2 milliards en 2020, qui a été une année difficile pour tout le monde du fait de la crise Covid et aussi du fait que, en réponse à cette crise Covid, on a réorienté une partie de nos financements vers des approches de protection sociale et d'accompagnement des populations vulnérables aux effets de cette crise. Voilà, alors on n'est pas que un financeur. Ah oui, j'oubliais de vous dire qu'on est depuis cette année aussi la première banque de développement à avoir pris un engagement pour faire converger l'agenda climat avec l'agenda de biodiversité qui nous occupera en septembre à Marseille avec le congrès de l'UICN et à consacrer 30% de nos financements climat avec un co-bénéfice de biodiversité, c'est-à-dire que ces financements permettent aussi de préserver la biodiversité dans nos pays. Alors, pour faire ça, on a les financements. Pour faire ça, on a aussi les partenariats, les alliances. Les partenariats au niveau français, c'est les partenariats avec les établissements publics, avec l'ADEME en particulier. Mais on travaille aussi avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité. On va travailler avec le CNES sur ces sujets-là. Au niveau international, l'AFD contribue aux côtés du ministère des Affaires étrangères à tous les événements internationaux de COP, de Climate Week, de One Planet Summit pour contribuer à l'élaboration des positions françaises. On préside aussi l'IDFC, l'International Development Finance Club, qui est un réseau unique de 23 banques de développement qui consacrent quand même 800 milliards de dollars par an au développement de leur pays. Alors parmi elles, vous avez la BNDES brésilienne, vous avez la China Development Bank en Chine. Et toutes ces banques publiques de développement consacrent 20% du montant total de leurs engagements à la lutte contre le changement climatique, ce qui est bien entendu une manière de réorienter les financements, y compris privés, vers la lutte contre le changement climatique. Et comme le disait le directeur général de l'AFD, on a réuni en fin d'année dernière, dans le cadre du Paris Peace Forum, 450 banques de développement avec des engagements forts en faveur de la réorientation de leur financement sur la lutte contre le changement climatique. Le directeur général de l'AFD en a parlé tout à l'heure aussi. On a, pour accompagner la coopération décentralisée, un outil que le monde entier nous envie, hein, la FICOL, c'est pas une règle, qui est un petit guichet consacré à l'action extérieure des collectivités territoriales françaises, spécifique, au même titre qu'on a un guichet pour le financement des ONG bien plus volumineux, et dont certains des financements, alors qui doit de toute façon être 100% accord de Paris, hein, les projets qui sont financés le sont comme toutes nos opérations en ligne avec des approches de décarbonisation, mais qui, donc, spécifiquement, a pu accompagner un certain nombre de projets portés par des collectivités territoriales, comme le département de l'Ille-et-Vilaine, avec la région de Mopti, pour des projets d'électrification solaire en milieu rural, le département de l'Ardèche, avec le département de Matam, au Sénégal, avec toujours une approche concertée sur des énergies alternatives pour de l'alimentation en eau, La Rochelle, que j'ai croisée tout à l'heure avec Kendari en Indonésie, qui travaille sur l'adaptation pour la gestion globale du cycle de l'eau. La Réunion, avec l'aménagement intégré et durable du littoral côtier de la commune urbaine de Morondava à Madagascar. On est aussi en Argentine avec la province de Jujuy et la région Île-de-France sur le Vietnam avec Hanoï. Et bien entendu, comme ça a été cité, la région Le Grand Poitiers dans le cadre de sa coopération avec la ville de Santa Fe en Argentine qui va étudier les conditions de mise en œuvre de projets de coopération décentralisés écologiquement responsables. On sait que très effectivement, c'est des approches qui peuvent conduire à pas mal d'émissions. Voilà, donc on restera à votre disposition pour répondre à vos questions. Je voulais citer aussi, puisque je l'ai dit, le projet porté par Expertise France, qui est un projet de soutien à la Convention des maires, qui est sur financement de l'Union européenne et qui accompagne l'élaboration de plans climat, en particulier en Afrique. J'ai entendu pas mal de villes secondaires du Togo qui sont très demandeuses et sans doute demandeuses d'échanges avec leurs homologues français. Et l'AFD accompagne les projets qui sont identifiés par les financements, par ces financements. Voilà, je reste à votre disposition et je passe le relais à ma tutelle.
Merci Marie-Pierre. Bon, bonjour à tous, ravie d'être parmi vous. Je remercie CityUniFrance de nous avoir invités aux côtés de nos partenaires de jeu en matière de coopération décentralisée, que ce soit la FCCRE, l'AFD et l'ADEME, et bien d'autres encore qui sont ici aujourd'hui au sein de la Cité des sciences et de la Villette, avec les associations d'élus, Expertise France et toutes les collectivités présentes. Alors, comme l'a dit ce matin le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoine, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a fait de la lutte contre le changement climatique une de ses priorités. Aussi, il est tout à fait naturel que la délégation que je représente aujourd'hui, la DAECT, s'engage aux côtés des collectivités pour les encourager dans les coopérations sous le signe de la lutte contre le changement climatique, la transition écologique, le maintien de la biodiversité, qui sont une condition indispensable pour parvenir à atteindre les objectifs du développement durable. La DAECT s'attache depuis de nombreuses années à ces enjeux dans tous les outils que nous mettons à la disposition pour soutenir les collectivités territoriales qui souhaitent s'engager sur ces thèmes. Plus haut ? D'accord. On sait pertinemment que les solutions pour la lutte contre le changement climatique se trouvent dans les territoires, auprès des collectivités territoriales qui s'engagent très fortement pour enrayer ces phénomènes, en associant aussi les citoyens qui ont besoin d'être formés, informés sur ce qui se passe. On sait que l'engagement des villes est particulièrement important puisqu'elles émettent 70% des gaz à effet de serre. Mais elles constituent aussi un énorme réservoir d'innovation quant à la mobilité, la relation urbain et rurale, les transports, le patrimoine sur lequel il faut aussi être attentif. Ne pas oublier non plus que le changement climatique a des effets pervers dans certains pays, avec les stress hydriques, les transitions alimentaires, dans les villes accueillant une forte immigration. Je pense notamment au pourtour méditerranéen sur la rive sud. Et l'évolution de la biodiversité qu'il faut préserver. On a constaté qu'au travers de la déclaration de l'APD des collectivités territoriales en 2020, l'effort des collectivités territoriales n'a pas fait défaut et ne s'est pas tari et continue à accroître. Nous avons presque augmenté de plus d'un million, et je crois que ce matin, le secrétaire l'a annoncé, nous avons atteint 122 millions en 2020, soit un peu plus qu'en 2019. D'autre part, malgré la pandémie, l'engagement des collectivités dans les projets de coopération n'est pas non plus en recul. On l'a constaté avec le nombre de projets qui ont été déposés au travers de nos appels à projets et que nous avons pu soutenir. Et ça a été constaté aussi par l'AFD au travers des projets de la FICOL. Donc, en ce qui concerne nos appels à projets, nous avons, pour certains, vous le savez, un certain nombre de projets qui sont des appels à projets soit généralistes, soit thématiques, soit bilatéraux. Nous n'avons pas développé de projet climat cette année, ni l'année dernière d'ailleurs, pour la simple raison, c'est que l'on retrouve le climat dans tous nos appels à projets. Et très souvent, les collectivités territoriales, dans tous les partenariats qu'elles développent, les objectifs de développement durable sont extrêmement présents et la lutte contre le climat est inscrite à peu près dans tous les projets. Nos taux de cofinancement peuvent aller jusqu'à 30% des coopérations avec les pays éligibles, non éligibles, pardon, à l'aide au développement, 50% pour les pays éligibles et 70% si ces derniers font partie des pays prioritaires définis par le Comité interministériel de la coopération décentralisée, qui est le CICID. Nous n'avons pas de seuil plancher pour nos financements dans les projets que nous sélectionnons. Et nous essayons de faire en sorte que toute collectivité, quelle que soit sa taille, son expérience et son histoire, puisse coopérer et puisse bénéficier de nos aides. Outre nos appels à projets, nous pouvons aussi participer au financement du déplacement d'un élu ou d'un fonctionnaire territorial lorsqu'un partenaire, un partenariat ou un projet envisagé nécessite une mission auprès d'une collectivité étrangères, futurs partenaires, en vue d'une finalisation. Et ceci grâce à la mise en place d'un programme que nous appelons EXPECT, qui permet donc aux collectivités de valoriser à l'international leurs compétences et savoir-faire. On est convaincus que chaque collectivité possède un ou plusieurs savoir-faire, une ou plusieurs compétences qui méritent d'être mises en exergue et d'être présentées à des partenaires étrangers. Donc le programme fonctionne à partir d'une labellisation de compétences que les collectivités peuvent déposer au travers d'un dossier. Nous avons des comités de sélection à peu près tous les deux mois qui permettent donc de labelliser et obtenir ce label pour ces collectivités. Par ailleurs, la DAECT avec ses partenaires, à la FCCRE, Plateforma, Climate Chance, le comité français de l'UICN, le CODATU, la Fédération française des parcs naturels régionaux, participeront cette année à plusieurs rendez-vous importants sur cette thématique. Et on fera en sorte que toutes les collectivités puissent y participer, du moins celles qui le veulent vraiment. Alors, Marie-Pierre Bourzet a parlé du congrès mondial de l'UICN qui se tiendra à Marseille. C'est un événement important et permettra d'avoir trois séances consacrées aux collectivités territoriales. Le premier, c'est le sommet de l'action territoriale et locale, le 3 septembre, qui portera sur plusieurs thématiques, les territoires extraordinaires, territoires ordinaires, territoires urbains, financement et gouvernance. La deuxième séquence, c'est le sommet des réseaux, le 8 septembre. Avec des discussions autour des actions des collectivités territoriales en faveur de la biodiversité. La troisième séquence, c'est une session thématique, préserver la biodiversité par la coopération décentralisée. Nous aurons ensuite, dans ce second semestre, la semaine de la mobilité et du climat, organisée par la CODATU et Climate Chance à Dakar, donc à la mi-septembre, qui permettra donc de nombreuses rencontres au travers des responsables nationaux, bailleurs de fonds, entreprises, organisations de la société civile. Ensuite, nous aurons la COP26 qui se tiendra donc chez nos amis britanniques à Glasgow en novembre. Et puis, il y aura la rencontre franco-britannique avec des maires et des élus locaux à Nancy pour s'exprimer également sur le sujet de la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, sur le climat et la biodiversité, lors du Forum des Deux Rives, qui se tiendra donc fin novembre à Marseille, consacré surtout à la Méditerranée, une place sera faite aux collectivités territoriales, puisque nous aurons une séquence importante qui sera organisée avec les associations d'élus et un certain nombre d'organisations. Sera en même temps consacré auprès de la Méditerranée du futur une contribution sur Méditerranée, mer exemplaire, en 2030. Cette opération qui avait été lancée par l'Espagne et la Principauté de Monaco lors du One Planet Summit de janvier dernier. On tiendra compte également de la Méditerranée du futur, de la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et de son engagement très fort sur la lutte contre le climat et la préservation de la biodiversité en Méditerranée, et pas seulement, puisqu'il y a ce programme en Costa Rica qui est soutenu donc par l'AFD. Voilà, je vous remercie.
J'y vais. Ah, très bien. Bonjour à tous. Donc, Frédéric Vallier, je suis secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe, qui est la Fédération européenne des associations de collectivités territoriales. Et nous travaillons notamment avec les institutions européennes pour voir comment l'action internationale des collectivités de tous les pays européens, et les Français évidemment dans ce cadre-là, peuvent bénéficier du soutien de l'Union européenne dans leurs actions pour la coopération. Alors, le budget européen, vous le savez peut-être, est voté pour une programmation de 7 ans. Donc, on est sur la programmation 2021-2027, qui a été adoptée par le Parlement, la Commission et le Conseil européen en fin d'année 2020. Et maintenant, on est dans la phase d'élaboration des programmes. Et à ce titre-là, j'insiste sur le fait que la loi européenne prévoit que l'Europe soit complètement décarbonée en 2050, avec une étape en 2030. Donc l'ensemble des budgets consacrés par l'Union européenne doivent être fléchés sur cet objectif-là, et en particulier les crédits à la coopération. Donc le nouvel instrument qui facilitera l'accès des collectivités au financement européen, qui s'appelle Global Europe, consacrera 30% de ces fonds à des activités liées directement à la lutte contre les dérèglements climatiques, et en particulier pour les collectivités territoriales des pays partenaires. Il est prévu un budget sur les 7 ans de 500 millions d'euros, donc qui seront dans les programmes régionaux, c'est-à-dire que l'Europe fonctionne avec des programmes régionaux. L'Afrique subsaharienne est une région, l'Amérique latine, la Méditerranée, l'Asie du Sud-Est, etc. Et donc c'est à l'intérieur de chaque programme régional qu'il y aura accès à ces financements pour les collectivités territoriales des pays partenaires, mais aussi pour leurs partenaires du Nord dans le cadre des projets de coopération. Donc c'est un gros changement par rapport à ce qui existait auparavant, puisqu'auparavant il y avait des appels comme la France en fait auprès des collectivités pour développer des projets de coopération. Désormais, le financement européen sera directement affecté aux territoires concernés. Donc ça veut dire que si vous avez des partenaires dans les pays du Sud, vous devez monter des projets de coopération avec eux, et c'est via la délégation de l'Union européenne dans le pays partenaire ou dans la région que vous pourrez obtenir des financements, mais qui existent et qui sont plus conséquents encore que ce qui existait par le passé. Donc je vous invite vraiment à prendre langue avec les délégations de l'Union européenne sur ces questions-là. Alors, nous avons une action de plaidoyer par rapport aux institutions, par rapport aussi à l'international. Donc c'est vrai que l'inscription de la thématique climat dans les actions de coopération pour nous a été une priorité. Tout à l'heure je disais en plénière qu'il y a un aspect qui est très important, c'est la création d'outils dédiés pour les collectivités territoriales pour mener leurs actions climat. Alors je sais que l'AFD, je crois, est la seule agence encore pour l'instant qui finance directement des investissements de collectivités territoriales, puisqu'en général les agences de développement traitent d'État à État, mais il y a finalement assez peu de solutions pour les villes elles-mêmes dans les pays du Sud qui veulent investir. Donc je salue évidemment l'effort qui est fait par la France et l'exemple qui est donné aux autres aussi. Mais on a besoin de plus que ça. On a besoin d'outils créés par les banques de développement, par les banques de développement internationales et aussi régionales ou nationales. Enfin, je pense en Afrique à la Banque africaine de développement, par exemple, ou d'autres, avec des outils qui puissent être accessibles aux collectivités territoriales et pas seulement au capital, aux villes capitales, mais aussi aux territoires plus éloignés des centres urbains. Et pour ça, évidemment, il y a besoin de renforcement des capacités, hein, on l'a souvent dit. Et c'est là où, justement, les collectivités françaises peuvent appuyer, parce qu'elles ont l'expertise. Et ce n'est pas seulement des expertises techniques en matière de mise en place de plans climat, mais ça peut être des expertises techniques en matière de négociation de prêts avec des banques ou avec des organismes financiers. Ça, c'est très important. Former aussi les fonctionnaires territoriaux des pays partenaires à gérer aussi des budgets importants. C'est un élément essentiel. Et puis, on a besoin d'un cadre législatif. Enfin, les collectivités territoriales ont besoin d'un cadre législatif qui les autorise à aller sur les marchés financiers pour financer leurs investissements. Et ça, c'est l'autre aspect sur lequel, évidemment, nous essayons d'intervenir avec nos partenaires du Sud, avec CGLU Afrique notamment, qui est notre organisation sœur en Afrique, mais aussi avec les réseaux internationaux, enfin CGLU, le ICLEI, le C40, enfin tous ceux qui agissent avec nous sur ces thématiques-là. Mais c'est vrai que si on veut réussir la transition, et si on veut réussir la lutte contre le changement climatique, il faut absolument renforcer les capacités et l'accès au financement des collectivités, au financement climat, puisqu'il y a aussi une facilité qui est offerte à ce niveau-là. Mais pour l'instant, les villes n'ont pas accès à la finance climat. Donc c'est un des points que nous aborderons dans le cadre de la COP26 notamment, sur la facilité d'accès au financement. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Et je serai heureux de répondre aux questions s'il y en a. Merci.
Merci à tous les quatre pour ces éléments. Donc on voit que de plus en plus, le financement des projets sont conditionnés finalement par la présence de composantes climatiques au sein des programmes. On va maintenant prendre plusieurs questions. Pour ceux qui sont arrivés plus tard, on a ici les représentants de l'ADEME, de l'Agence française de développement, de la DAECT et de CCRE Plateforma. Donc, est-ce que certains veulent poser des questions ou ont des demandes de précision à poser à l'un des intervenants ? Alors, on va vous donner le micro, comme ça tout le monde pourra vous entendre.
Merci beaucoup. Merci pour vos présentations. Ma question, elle s'adresse à Frédéric Vallier. Lorsque vous dites que le financement est directement adressé à la collectivité du Sud, moi, je voulais savoir comment se fait l'accompagnement et le suivi du projet. Et est-ce que si... ça c'est aussi aux autres. Est-ce que si on a déjà un projet qui est en cours, est-ce qu'il y a possibilité malgré tout, puisque maintenant on peut bénéficier du financement sans avoir à répondre à un appel à projet, donc de vous solliciter et d'avoir des financements croisés? Merci beaucoup. Excusez-moi, je ne m'étais pas présentée, Fatia Aloda, donc maire adjointe à la solidarité internationale à la ville de Malakoff.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Alors, ce n'est pas moi qu'il faut solliciter, parce que moi, je n'ai pas le budget de l'Union européenne, malheureusement. J'aimerais bien. Mais les projets en cours peuvent être financés. Et je pense que même ils peuvent être financer plus facilement que par le passé en ce qui concerne l'Union européenne, puisque effectivement, vous pouvez aller avec vos partenaires du Sud dans la délégation de l'Union européenne du pays concerné ou la délégation régionale, si c'est une délégation régionale, pour solliciter un appui financier. Et donc ça, c'est normalement, il n'y a pas de problème. Alors, si c'est un projet qui a déjà fait l'objet d'un financement européen, évidemment, ça ne peut pas être refinancé de la même manière, mais sur des actions nouvelles, oui, il n'y a pas de souci. Et l'accompagnement, bah, il se fait par les délégations de l'Union européenne. Donc, comme d'habitude, avec l'Union européenne, il y a beaucoup de contrôle quand même. Enfin, normalement, ça doit justement être facilité par le fait que c'est sur place. Alors, je dis ça, et en même temps, je dois dire que toutes les délégations de l'Union européenne ne sont pas complètement au fait de la coopération décentralisée. C'est rien de le dire. Donc, on a aussi ce travail-là à faire, et on le fait. On essaye de contacter nous-mêmes les délégations de l'Union européenne le plus souvent possible. Il y a des courriers qui sont faits de Bruxelles vers toutes les délégations. Mais il faut absolument que vous-même, acteur de la coopération, alliez voir. Normalement, dans toutes les délégations, il y a un délégué chargé de suivre les autorités locales, les gouvernements locaux. Il faut le voir, il faut expliquer que oui, il y a un financement. Et ça, pour le coup, on peut vous donner les éléments si vous avez besoin pour pouvoir argumenter vos demandes auprès des délégations.
Bonjour, Marion Prudhomme de Pays de la Loire Coopération Internationale. En fait, j'ai deux questions. J'en ai une qui va s'adresser à M. Masset et une autre à Mme Reingold. Donc, M. Masset, j'ai une question sur le rôle de l'ADEME au plan régional. Donc, par exemple, est-ce que l'ADEME Pays de la Loire, dans notre cas, pourrait éventuellement être sollicité pour accompagner les acteurs de la coopération internationale, donc plus spécifiquement les collectivités sur le territoire, pour des formations, pour les études, etc. Donc je voulais connaître un peu ce rôle-là régional. Et puis, Madame Reingold, j'ai une demande de précision sur le programme EXPECT et le financement des missions de diagnostic, parce que j'avais entendu qu'il y avait aussi le programme PACT. Et je ne sais pas trop comment les deux s'articulent. Donc voilà, c'était une demande de précision sur ce programme. Je vous remercie.
Ça va être plus rapide, oui. Merci pour votre question. Alors, le programme EXPECT, pour certains, l'ont connu sous le nom de PACT, PACT 3. Alors, il a légèrement évolué en mettant une facilité de pouvoir déposer un dossier d'expertise. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, on est convaincu que chaque collectivité possède un savoir-faire réel qu'elle a su mettre en application sur son territoire. Et à partir de là, mérite d'être présenté et d'être, je dirais, mis en valeur auprès de collectivités étrangères qui n'ont pas ce savoir-faire, qui n'ont pas cette expertise et qui souhaiteraient pouvoir développer des projets de coopération. Alors, pour ce faire, la collectivité française qui souhaite obtenir ce label peut donc déposer un dossier auprès de notre service que nous regardons avec un certain nombre d'autres personnes qui appartiennent au comité de sélection, comme l'AFD, comme un certain nombre des réseaux d'élus. Et ce label vous permet donc, lorsqu'il y a une demande en provenance de notre ambassade qui a su qu'une collectivité étrangère était intéressée, nous fait parvenir cette demande. Nous interrogeons la collectivité qui répond de la façon la plus proche à la demande étrangère. Et à partir de là, nous mettons en relation donc la collectivité française qui aura accepté d'aller porter son expertise avec la collectivité étrangère. Et lorsqu'il s'agit de faire la mission, nous prenons en charge la mission, c'est-à-dire le déplacement à la fois transport, restauration, hôtellerie, pour une mission d'une durée à peu près d'une semaine. Voilà. Alors, un petit peu plus, bien sûr, en fonction de l'éloignement. Si c'est pour aller en Nouvelle-Zélande, il est évident qu'une semaine, ça sera peut-être un petit peu juste. Mais en attendant, donc nous le prenons en charge et pour essayer donc de mettre en place un partenariat. Et si possible, bah, nous souhaitons que cela devienne une coopération qui puisse perdurer et devienne pérenne. Voilà, j'ai répondu à votre question.
Alors pour la première partie de la question, oui, vous pouvez contacter l'ADR, la direction régionale de l'ADEME Pays de Loire. Alors, les ETP des organismes publics tels que les nôtres, étant ce qu'ils sont, et étant sous contrainte des contraintes publiques que nous connaissons tous, hein, au niveau des opérateurs publics français, les DR ne sont pas forcément suffisamment capés en ETP pour vous accompagner, bien entendu, du long terme. Donc, ce que fera le directeur régional Pays de Loire, c'est qu'il me contactera, moi, au niveau du siège, et on pourra examiner ensemble la manière de faire entre le siège et la DR pour accompagner la collectivité sur une expertise ou un accompagnement d'études ou un voyage d'études ou une réunion de sensibilisation, d'information, etc., etc. Enfin, selon le programme que vous voulez établir, on apportera une réponse conjointe entre le siège et la direction régionale.
Merci. Y a-t-il d'autres questions ?
Bonjour à tous. Alassane Guissé, adjoint au maire à la ville de Nantes, en charge de la coopération décentralisée. Je vous remercie. Ça a été très clair, votre exposé. Moi, je vais essayer de poser les questions à l'envers. Quoi. On parle de l'expertise locale. Et comme vous le savez, dans nos collectivités, nous avons une jeunesse qui bouge. Nous avons des citoyens qui veulent s'engager sur l'international. Et l'expertise, elle n'est pas que dans les institutions. Et comment peut-on aujourd'hui aussi valoriser l'expertise des habitants, étant donné que nous sommes des collectivités au service des habitants et que de plus en plus, nous voyons de la labellisation, nous voyons beaucoup d'actions. On veut que le cœur de nos actions, que les citoyens puissent y participer. Et puis aussi, le fait de vouloir tout le temps dire, labelliser nos institutions, nos partenaires du Sud ou d'Asie, ils ont peut-être le mérite ou d'avoir une certaine expertise que nous pouvons essayer de voir aussi comment on peut les labelliser, qui puissent nous servir dans le cadre de la réciprocité. Merci.
Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Comme je le disais, donc le programme EXPECT est fait pour vous. On le sait pertinemment. Vous avez une expertise. Vous parliez des jeunes, la mobilité des jeunes, la volonté citoyenne des jeunes de s'engager dans la vie de la collectivité. Et on s'aperçoit que dans beaucoup de pays, je prends par exemple le Maroc, où il y a une réelle demande d'expertise en la matière, nous avons des collectivités qui déjà essayent de répondre par leur savoir-faire. Mantes a tout à fait cette capacité de pouvoir donc s'engager. Et donc, vous pouvez tout à fait déposer votre demande de labellisation. Et à partir de là, nous pourrions vous mettre sur des demandes de programmes de jeunes en faveur de la citoyenneté locale, du développement des parlements de jeunes, par exemple, qui est très demandé dans un certain nombre de pays où la décentralisation, la démocratisation de la vie participative au sein de la collectivité est en forte demande. Nous pourrions tout à fait répondre à ce souhait. Voilà. En tout cas, je reste à votre disposition. Et bien entendu, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on souhaite ensuite que vous faites partager cette expertise et que cette coopération puisse devenir pérenne, après, nous avons nos appels à projets qui peuvent se développer à partir de votre rencontre, du fait que vous êtes bien entendu entre les deux collectivités. Et nos appels à projets permettront de financer ensuite votre partenariat. et aller plus loin si besoin est dans vos coopérations avec les uns et les autres autour de moi.
Bonjour, Sébastien Lefeuve du département d'Ille-et-Vilaine. Petite question pour Monsieur Vallier. Tout à l'heure, vous parliez de l'étape d'élaboration des programmes. Cette étape dure combien de temps et quelle est l'étape suivante si on veut prendre contact avec eux?
Alors, je parlais de l'étape au niveau européen. Hein, donc, l'élaboration des programmes, c'est en ce moment. L'ensemble de la programmation devra être terminé d'ici la fin de l'année. C'est même quasi fini maintenant. Mais par contre, après, c'est l'utilisation des programmes. C'est-à-dire que après, il y a tout le champ libre pour soit faire des appels à propositions. Les délégations donc de l'Union européenne auront la possibilité de faire leurs propres appels, soit de contractualiser directement avec les acteurs sur des projets divers et variés dans le cadre de la programmation budgétaire prévue. Mais grosso modo, la programmation, elle prévoit donc un fléchage sur le Green Deal, sur l'action climatique et le développement durable. Les grandes priorités des programmes à venir, ça va être pour les pays partenaires le renforcement des capacités, la jeunesse, l'égalité des genres, donc l'égalité femmes-hommes, et puis la lutte contre le changement climatique et l'environnement. Je crois que c'est en très résumé les grandes priorités de l'action européenne pour la coopération internationale. Donc tous les projets qui portent sur ces questions-là, la citoyenneté, le renforcement des capacités des jeunes, la société civile, tout ça, ça sera évidemment soutenu plus en priorité. Voilà.
Oui, bonjour. À Dabécou, je suis adjoint au maire à la ville de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Nous venons de vivre un moment particulièrement difficile, mais aussi d'où on peut tirer beaucoup d'enseignements. Et je pense à la coopération décentralisée peut être un moyen très très important pour répondre à certains défis qui sont devant nous. Et particulièrement la question aussi bien écologique, le réchauffement climatique, que les questions sanitaires demandent des connaissances scientifiques, si je puis dire, sur lesquelles, à partir desquelles, on peut agir et réagir à plus ou moins long terme. Et je pense qu'il y a lieu, ça se fait sans doute, mais pas suffisamment, on n'en a pas beaucoup parlé déjà ce matin, c'est la question de la mobilisation des ressources locales. Et quand on parle de ressources locales, ce n'est pas uniquement les ressources financières ou les ressources politiques et même de la société en général, mais également les ressources de connaissance des problématiques et des problèmes pour pouvoir y répondre et pour que les politiques publiques l'intègrent. Donc voilà. Aujourd'hui, on est tous très sensibilisés, en tout cas, et on est tous attentifs à ce que dit le GIEC. Mais au niveau local, ça serait important que les pouvoirs publics soutiennent des actions qui regroupent, en tout cas, ce type de ressources pour les mettre en avant et pour mettre en œuvre des politiques publiques répondant à moyen et long terme. Merci.
Pour illustrer ce que vous venez de dire, nous intervenons grâce à des crédits du Fonds français pour l'environnement mondial, donc de manière indirecte via l'AFD, au Sénégal, pour mettre en place une filière de valorisation de ce que l'on appelle le TIFA. Cette plante envahissante sous forme de roseau du fleuve Sénégal. Et on s'est aperçu, alors avec deux biais, l'un, la combustion, pour essayer d'éviter de couper les arbres pour faire du charbon de bois, Et puis, le deuxième biais, c'est la construction, c'est-à-dire comment utiliser cette plante pour avoir des murs bioclimatiques qui ne nécessitent pas d'avoir derrière une clim, etc. etc. Bon. Et on s'est aperçu en allant explorer ce champ qu'il y avait un savoir-faire local sénégalais existant qui était complètement disparu, si j'ose dire, et que le fait de mettre en place ce type de projet a pu permettre à des architectes, à des chercheurs, à des ouvriers sénégalais de remettre en pratique des méthodes ancestrales de construction complètement adaptées au climat et qui étaient complètement en phase avec les objectifs qu'on recherchait. Alors tout ça pour dire quoi ? Tout simplement pour dire que, grosso modo, certains projets que nous finançons AFD, l'Europe, etc., peuvent permettre de remettre au goût du jour des méthodes ancestrales très connues dans les pays, mais qui ont disparu parce que le fait de l'apport, de la facilité, des investissements extérieurs, etc., fait que toutes ces méthodes ont plus ou moins disparu. Les remettre au goût du jour permet d'avoir des solutions aujourd'hui complètement adaptées aux territoires concernés. Et ça, c'est important. Et je reviens sur ce que disait M. Chevalier tout à l'heure sur la programmation européenne. Dans la programmation européenne, il y a des objectifs qui ont été effectivement énoncés sur 7 ans. Mais 7 ans, c'est très long. Et l'Europe a quelque chose de... de plus opérationnel, qui sont ce qu'on appelle les programmes de travail annuels. Et dans les programmes de travail annuels, la Commission va mettre en pratique certaines priorités de cette programmation. Et dans ces priorités-là, si effectivement, au regard de ce qui remonte des délégations européennes des territoires concernés, il y a un certain nombre de sujets traitant de ce que je viens d'expliquer, par exemple, eh bien, ça sera pris en compte dans le financement européen, ensuite, de projets. Donc, il y a un cercle à connaître, si j'ose dire, et à faire fonctionner au niveau de ces projets finançables au niveau européen, notamment. Merci.
Je me présente, M. Baelaïch. Je suis élu à l'international et la coopération décentralisée à la mairie de Nazulesec. Je vais poser une question à la plénière concernant la découpe des forêts classiques. Bah, pratiquement, je n'ai pas eu de réponse. Et ensuite, quand on parle de transition écologique, transition énergétique, moi, je pense qu'il faut un accompagnement. C'est-à-dire que quand on n'accompagne pas les Africains sur cette transition écologique, même si on met de l'argent, même si on finance, il y aura toujours des impacts négatifs sur cette transition. Moi, je pense aux collectivités locales. C'est-à-dire l'argent que les ONG ou l'Union européenne déversent en Afrique, moi, je pense qu'il faut un accompagnement au niveau territorial, au niveau local, parce que c'est les locaux qui sont concernés par ce dérèglement climatique. Monsieur Massé, vous avez parlé de la muraille. Bon, moi, je parle de la muraille verte. C'est-à-dire que tout le monde parle de la muraille verte dans les pays sahéliens pour lutter contre l'ensemblement des. C'est-à-dire, vous dites, voilà, comment on appelle ça, ensemblement, je pense. Voilà, l'avancée du désert, voilà. Mais que constitue cette muraille verte? Juste une question.
Sur la deuxième partie de la question, je n'ai pas forcément une réponse immédiate, donc je peux pas vous répondre immédiatement. Par contre, sur la première partie, sur le fait de l'accompagnement, j'expliquais ça en plénière tout à l'heure. Nous avons, par exemple, nous, en tant qu'agence d'expertise, conclu un accord avec... le CGLU Afrique et puis l'Académie des gouvernements locaux africains pour mettre en place des formations de formateurs. L'idée, c'est de former des équipes africaines qui iront former les différentes collectivités locales sur la montée en compétences et en connaissances de toutes ces problématiques liées à la transition, au climat, etc. Ce type de réponse, effectivement, alors ça nécessite un investissement important au départ parce qu'il faut mettre de l'argent dans la machine, obligatoirement. Donc il faut trouver de l'argent. Donc il y a des mesures d'accompagnement dans un certain nombre d'agences qu'il faut mobiliser au niveau européen également. Mais ce type d'accompagnement est essentiel. Je suis entièrement d'accord avec vous. Sur le principe d'appropriation, en fait, par les équipes des collectivités territoriales de cette problématique. On l'a vécu et on le vit encore aujourd'hui en France, hein, de la même manière de l'autre côté. Et le fait est qu'en allant former, entre guillemets, les équipes locales, notamment en Afrique subsaharienne, on apprend également beaucoup de choses pour venir enrichir notre propre approche territoriale franco-française. Parce que finalement, il y a des idées qui émergent sur des priorités d'adaptation, par exemple. On parle beaucoup d'adaptation aujourd'hui. On met beaucoup de choses derrière le mot adaptation. Il faudrait sans doute préciser, comme il fut un temps, derrière le mot développement durable, on mettait beaucoup de choses. Derrière le mot adaptation, on commence à préciser davantage les choses aujourd'hui. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui existent dans les pays du Sud qui sont complètement adaptables aux pays du Nord en termes d'adaptation des villes du Nord par rapport à tout ce que l'on subit en termes de changement climatique aujourd'hui. Donc je suis entièrement d'accord avec vous sur l'accompagnement.
Je voudrais insister aussi sur le rôle des associations nationales de collectivités. Parce que c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent immense. En 2050, il y aura plus d'un milliard d'Africains. Donc c'est pas seulement la coopération décentralisée qui pourra soutenir le développement de l'Afrique. Et donc vous avez raison de dire que c'est dans le territoire qu'il faut absolument travailler avec les gens, avec les citoyens, pour porter les projets. Et donc les associations nationales de collectivités, elles ont cette capacité avec CGLU Afrique, avec l'Académie, qui est une académie nouvelle, hein, l'Académie des gouvernements locaux africains. Ça fait 5 ans qu'elle existe. Donc il y a évidemment beaucoup de choses à faire. Mais en irriguant sur l'ensemble des pays à travers les associations nationales, en formant des formateurs qui pourront aller ensuite dans les différentes communes ou dans les différentes régions pour regrouper les communes. C'est comme ça qu'on pourra effectivement arriver à changer les perspectives et aussi, évidemment, comme vous le disiez, Monsieur Masset, en intégrant la connaissance locale, parce que il y a énormément de choses qui existent localement et qu'il faut valoriser et diffuser auprès des collègues en Afrique elle-même.
On va en prendre encore une ou deux questions et puis après on pourra conclure. Là-haut. Peut-être poser les deux questions l'une après l'autre.
Merci beaucoup. Monsieur Siangou Koumtian, je suis secrétaire exécutif de la fêtière des communes du Togo. J'ai deux éléments qui vont composer mon intervention. Le premier élément, c'est... Je voudrais quand même qu'on n'oublie pas la dimension culturelle qui participe énormément de la protection du climat. J'entendais tout à l'heure les questions de coutumes. En Afrique, en fait, on a ce qu'on appelle les forêts sacrées et on a aussi des contes. On a beaucoup de contes, mais qui sont aujourd'hui tombés dans, je dirais, les oubliettes. Alors que ces contes-là, je dirais, glorifient la nature. Il est besoin que, d'abord, les Africains comprennent que cette dimension culturelle-là, cette dimension culturelle est très importante. Et le rapport habituel qu'on a avec l'Occident, c'est un rapport à la fois historique, mais un rapport qui pousse quelquefois les Africains à négliger ce pan-là culturel qui est absolument important. On a des habitudes, bien entendu, ancestrales, qu'il faut, je dirais, recultiver, ce qui permettrait réellement qu'on puisse réellement être dans la dimension de protection de la nature, mais en même temps de revivification de la culture ou des cultures, je dirais, qui permettent réellement à la fois une identité culturelle et une identité climatique. Donc moi, je pense que c'est bien qu'on convoque la science pour toute expertise, mais c'est aussi bien qu'on convoque, je dirais, la culture pour vraiment mettre l'accent sur ce que nous avons comme forêt sacrée, comme conte ou comme, je dirais, tous les éléments qui pourraient venir participer à cela. C'était le premier point. Le deuxième point, au Togo, on vient en fait de connaître ce qu'on appelle, je dirais, les élections municipales. C'était en juin 2019. Et la fêtière des communes du Togo, qui compose 117 communes aujourd'hui, est née il y a moins d'un an. Donc c'était le 14 novembre 2020. Or, moi qui suis secrétaire exécutif de cette fêtière, on est arrivé, on n'a pas les moyens, mais quand on va vers en fait des financeurs pour demander, parce que après tout la priorité c'est le climat, il faut la sensibilisation, il faut bien entendu la pédagogie, mais il faut aussi les moyens logistiques, bien entendu les moyens, les ressources dont on parlait. Mais quand on va vers des financeurs, vers l'Union européenne ou autre, on nous renvoie l'idée qu'il faut avoir des rapports d'activité, des rapports financiers, et qu'il faut au minimum 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? C'est ça aussi la question. Comment peut-on, nous, alors qu'on vient à peine de naître, alors que nous sommes dans une dynamique positive, avec une envie des maires qui se lèvent et qui savent réellement la nécessité en fait, d'être dans cette dynamique en fait, de protection de l'environnement, mais qui... En fait, on renvoie à leur fêtière que vous n'avez pas encore 2 ans de vie, donc il faut attendre d'avoir des rapports d'activité, des rapports financiers, 2 ou 3 ans avant de pouvoir postuler pour en fait des financements. C'est là qu'il y a problème et je voudrais savoir, vous qui êtes là, nos partenaires, comment pouvez-vous nous accompagner dans cet élan-là? Je vous remercie.
Merci. Bonjour, Nounou Vaz, je suis consultant. Je voudrais savoir par rapport à vos respectives organisations et programmes s'il y a déjà des éléments pour une transition écologique aussi dans la mise en œuvre même des projets. S'il y a des éléments sur comment organiser des événements un peu plus verts, comment préparer des actions de projets qui soient moins nocives par rapport au climat, les livrables, etc., etc. Il y a eu un petit travail de ça, je pense, par Interact sur des projets européens, mais après, j'ai l'impression que on oublie un peu dans la mise à jour des activités certaines petites choses qui pourraient réduire au moins la consommation d'arbres pour faire des papiers et des choses comme ça. Est-ce que vous avez des éléments de formation, des guides, des consignes qui seront introduites ou qui sont déjà introduites dans la préparation des financements? Merci.
Merci beaucoup. Je réponds au nom de Babudu Sedou. Je suis maire de la commune de Loti 1 au Togo. Je crois que le secrétaire exécutif de notre fêtière a pris en compte une partie de mon intervention. Mais je voudrais également revenir sur le fait que, comme il a dit précédemment, nous venons de connaître les élections locales en 2019. Et puis, nous avons des communes jeunes et donc qui n'ont pas suffisamment de ressources. Et il y a à la fois dans ce changement climatique dont nous parlons, il y a à la fois à créer, surtout les communes qui se trouvent dans la zone nord où le désert avance de manière drastique. Il faut bloquer l'avancée du désert par des reboisements intensifs. En même temps, il y a des espèces, des animaux en voie de disparition qu'il faut protéger dans nos zones. Et face à ces situations, lorsque ces communes-là tentent de chercher l'appui des partenaires, soit on dit qu'ils ne sont pas éligibles parce qu'il faut que ces communes aient des relations avec des communes du Nord, ce qui n'est pas forcément évident, ou on leur demande des situations qu'elles ne peuvent pas en avoir. Alors, face à ces genres de critères, de difficultés à avoir accès aux différents fonds, nous nous posons la question de savoir à quand ces jeunes communes pourront avoir accès au financement, alors que le problème, l'enjeu climatique n'attend pas. Il faut rapidement faire face à ces problèmes-là. Surtout que certaines communes sont à côté des déserts, où le désert avance de manière drastique. Qu'est-ce qu'on fait? On demande aux communes de faire des efforts, au même moment, on les empêche d'évoluer, c'est-à-dire d'avoir accès au fonds. Voilà un peu notre inquiétude. On voudrait avoir une issue par rapport à ce genre de choses. Merci beaucoup.
Voilà, je vais aller très vite. D'abord, sur la dernière question, oui, les professionnels sont les bienvenus dans les forums de discussion. Moi, je vous invite à voir Climate Chance, par exemple, pour voir comment vous pouvez venir participer au prochain sommet à Dakar, puisque là, c'est le lieu où sont rassemblés à la fois les élus locaux, mais aussi la société civile, les différents acteurs qui interviennent sur le développement. Donc voilà, une première réponse. Après, sur l'intégration de la culture et des traditions, c'est évidemment très important. Je crois que c'est un peu ce que vous disiez dans la redécouverte de pratiques qui ont existé par le passé, qui ont été parfois oubliées ou négligées. Donc c'est très important. Et puis le soutien à la fêtière des maires du Togo, ben oui, je suis désolé, c'est les règles un peu trop rigides parfois des institutions pour le financement, mais je pense qu'il faudrait que, enfin je suis sûr que vous êtes déjà en contact avec CGLU Afrique, avec mon collègue Jean-Pierre Mbassi sûrement, et il faut peut-être, enfin je veux bien essayer d'en parler avec l'Union européenne pour voir comment la délégation pourrait vous soutenir, si vous êtes une nouvelle association, c'est ce que je comprends. Mais il n'y avait pas d'association des maires du Togo avant ?
Non, c'était en
fait
une délégation spéciale.
Ah oui, c'est ça. D'accord. Oui, très bien. Bah oui, voilà.
Ils ont refusé.
Oui, bah parce qu'ils appliquent les règles, mais il y a toujours moyen d'avoir un peu de souplesse, sans doute. Donc, j'ai noté, en tout cas. Donc, voilà. Merci.
Merci beaucoup. Alors, effectivement, dans le cadre des programmes d'action que mènent les collectivités territoriales, celles-ci peuvent faire appel aux acteurs de leur territoire, c'est-à-dire des associations thématiques, des organisations comme Électriciens sans frontières, des architectes, voilà. Elles sont par contre responsables du programme d'action qu'elles nous proposent. Mais rien n'empêche qu'elles associent les professionnels à leurs projets. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, en ce qui concerne la culture, la culture est quelque chose qui est extrêmement important. On ne peut pas nier le fait que chaque pays a ses propres cultures, sa façon de faire, sa façon d'agir. Et quand on parle d'ailleurs de lutte contre le changement climatique, je pense aussi beaucoup au patrimoine. Le patrimoine souffre de ce. Et là, si je prends un exemple, notamment au Mali, avec la conservation des bibliothèques du désert, là, on a besoin d'experts patrimoniaux, d'experts culturels pour faire face justement à la préservation de ces biens culturels. Donc la culture fait partie aussi intégrante de nos actions de territoire et notamment de la lutte contre le changement climatique. On doit en prendre compte. Voilà.
Alors moi, je répondrai au monsieur qui est tout au fond là et qui demandait s'il y avait des modes d'emploi. Alors je vous invite à vous rapprocher du Grand Poitiers et de la mairie de Poitiers qui va lancer prochainement une étude sur comment vont amener des éléments de durabilité dans les projets de coopération décentralisée en tant que tels et dans leur mise en œuvre. Ça, je pense que vous pourrez en tirer des enseignements. Ils ont l'intention d'ailleurs de partager cette étude et cette expérience avec assez largement. Voilà, peut-être prochaine rencontre, l'année prochaine, il y aura un atelier dessus. Et enfin.
Et enfin, je ne vais pas rajouter grand-chose parce que tout a été dit. Mais sur l'aspect culturel, bon, ça démontre tout simplement la transversalité du sujet. Hein. Il ne faut pas raisonner uniquement techno ou études, ou, etc. Il faut associer l'ensemble des dimensions affectées par cette thématique du climat, quoi. Donc, et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, effectivement, dès lors qu'on creuse un peu et on discute un peu avec les personnes concernées des territoires, on s'aperçoit qu'il existe des choses un peu enfouies et qu'en déterrant un peu, eh ben, on arrive parfois à avoir des solutions assez aisées, pas très chères, parce que locales et qui répondent parfaitement aux besoins. Quant aux règles, Monsieur Chevalier a répondu, mais je pense que bon, c'est de l'argent public. Hein. Donc derrière, il y a nécessité d'avoir un minimum de contrôle de l'utilisation de cet argent public. Hein. Je suis très dur en disant ça, mais c'est normal. Et donc derrière, effectivement, on ne va pas confier de l'argent. Enfin, c'est pas l'ADEME. L'ADEME n'a pas suffisamment de budget de ce type-là, mais l'Union européenne ne va pas confier de l'argent sans avoir des contreparties et des contreparties de sécurité. Ça, c'est les procédures, malheureusement. Alors, comme dit M. Chevalier, toute procédure n'empêche pas une négociation. Et donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir les personnes responsables au niveau européen ou au niveau de la délégation pour essayer de voir comment vous pouvez vous inscrire en tant que nouvelle organisation dans ces programmes qui ont été mis en œuvre. Parce qu'il y a toujours des possibilités de négociation. Ce n'est pas complètement fermé à double tour. Donc, pour avoir vécu et travaillé au niveau de la Commission européenne, j'ai l'expérience de ça. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est ça. Et pour répondre à monsieur, effectivement, dans l'ensemble des événements auxquels nous participons en tant qu'agence d'expertise, on essaie toujours d'associer, on n'y arrive pas toujours, mais on essaye toujours d'associer le monde professionnel parce que ça permet d'apporter justement un éclairage sur des solutions de mise en œuvre opérationnelle. Mais encore une fois, c'est apporter l'éclairage. On n'est pas là comme étant on n'est pas Business France sur le principe de promouvoir une offre. On est là pour partager des expériences et partager du savoir-faire et des bonnes pratiques. C'est comme ça qu'on l'aborde.
Oui, deux petites annonces avant de se quitter. En 2022, Plateforma sortira un guide du financement de la coopération décentralisée. Donc, ça sera un outil intéressant pour vous. Et le CCRE, parallèlement, ça c'est plus pour les Européens, sortira un guide sur l'ensemble des financements européens pour les collectivités territoriales, donc avec beaucoup plus large. Et puis, en 2022 également, il y a la nouvelle session des Platform Awards qui sont les prix pour l'excellence en matière de coopération décentralisée. Et je vous invite tous à regarder sur le site de Plateforma ou de CUF d'ailleurs, parce que je pense que c'est relayé aussi par ce biais-là, pour valoriser vos projets de coopération, parce que ça donne toujours aussi un plus quand on a obtenu un prix pour aller négocier des financements après, et pour valoriser l'action qui est conduite. Voilà, merci.
Ben écoutez, merci à tous les quatre, à nos quatre intervenants. Un mot rapidement sur le programme. À 14h, dans cette même salle, on va avoir une session sur l'empreinte carbone, mesure de l'empreinte carbone. On va parler de neutralité carbone avec Climate Change et d'autres structures. Il y a aussi donc à côté le changement climatique a-t-il des effets genrés ? Et là où il y avait la plénière, sur les ODD, ODD coopération décentralisée, regard croisé européen. Voilà, merci à tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit. Ça se situe dans le loft qui est, quand vous sortez de l'endroit où il y a les rencontres, un peu plus loin, c'est à cet endroit-là que se situe le loft. Il faut descendre un étage. Merci.
D'ailleurs.